7h46, content de lui parler. Il est avocat, professeur en gestion et de droit à l'Université d'Ottawa. Le prof Gilles Levasseur est avec nous. Bonjour prof, comment allez-vous?
Toujours bien.
Bon, merci d'être là. Écoutez, c'est inquiétant, moi. Je regarde ça aller, l'Ontario. Les cas, surtout à Ottawa, ça n'arrête pas d'augmenter. T'es récemment, Mme Etchez, qui nous dit, écoutez, ça se peut qu'on... si on continue de même, on s'en va dans le rouge. Est-ce que ça vous inquiète, vous, là?
Absolument, parce qu'on avait l'impression qu'on était capable de contrôler, le développement de cette propagation-là du virus à Ottawa. Et ça recommence. Et le problème, c'est toujours, encore une fois, où est-ce qu'il y a des secteurs spécifiques, où est-ce qu'il y a des éclosions. Et c'est pour ça que la province et la ville essaient de prendre une démarche pour essayer de gérer cela, pour éviter qu'il y ait encore une fois cette troisième vague-là qui est en train de se développer à Ottawa et en Ontario. Puis on sait qu'elle s'en vient. On la voit déjà, cette vague-là, à Vancouver, où est-ce qu'on a déjà des centres d'éclosion qui sont déjà rattachés aux nouveaux variants, pas juste au COVID-19, mais aux nouveaux variants. Mm-hmm. Puis ce qu'on voit en Ontario, c'est que plus de 20% des nouveaux cas qu'on a de cette situation-là, c'est les variants, ce n'est plus juste le COVID-19.
Ouais. Mais le variant, s'il remplace le COVID-19, puis il n'y a pas d'augmentation, c'est pas pire. Mais si ça augmente, puis ça continue à se propager, parce que semble-t-il que c'est beaucoup plus agressif, c'est là que ça se complique. Puis là, ben, étant donné qu'on a été dans un plan de déconfinement graduel, peut-être qu'on a trop ouvert la valve, le prof, là, puis que le virus va gagner sur les moyens de se protéger.
Bien, c'est ça qui arrive. Puis là, justement, à la ville d'Ottawa, on a accepté que, par exemple, les restaurateurs puissent être capables, cet été, quand il va faire chaud, de pouvoir avoir accès au patio, mais très tard dans la soirée, et les bars vont pouvoir rester ouverts jusqu'à 2h du matin, dans les terrains qui sont rattachés à la ville. Donc ça, c'est parce que bon, il y a des endroits où on a permis des patios ou accès à l'extérieur, puis on va ouvrir ça jusqu'à 2h du matin. Les gens se posent la question, est-ce qu'on est allé trop vite? Pourquoi est-ce qu'on ne donne pas une chance au système de se contrôler puis de se préparer à ce qu'il pourrait être une autre situation d'éclosion avant d'ouvrir cela? Sauf qu'il y a tellement de pression qui vient des restaurateurs, des entreprises, du monde économique, qu'à un moment donné, on essaie de faire l'équilibre entre santé et économie. Puis le problème, c'est quand on fait ce genre de choix-là, ben il y en a un qui va perdre, puis ça va être la santé, parce qu'à un moment donné, l'éclosion va réapparaître. Pourquoi? C'est tellement facile de propager ce virus-là quand les gens ne sont pas bien protégés. Alors, c'est là le problème. Puis ça amène le débat maintenant à savoir le type de couvre-visage qu'on devrait avoir. Actuellement, ce qu'on voit apparaître de plus en plus, mais c'est lentement, c'est qu'il faut avoir un type de couvre-visage encore plus sophistiqué. Et bien là, vous allez voir qu'on commence à parler d'avoir un double couvre-visage. Donc, vous en mettez un premier masque. Vous allez mettre ensuite un deuxième par-dessus pour être certain que c'est encore mieux protégé parce que ce qu'on utilise actuellement n'est pas adéquat.
Tabarouette, hein? Ça se peut-tu? Hein? Il me semble que... il y a toujours de nouvelles choses qui arrivent, de nouvelles données qui arrivent pendant cette pandémie-là. On n'en vient jamais à bout. Là, la vaccination, évidemment, en Ontario, c'est comme au Québec. Là, c'est au compte-gouttes, ça avance pas vite, mais on se nourrit d'espoir qu'on va avoir des centaines de milliers de vaccins dans les semaines qui s'en viennent, là.
Mais la réponse, c'est oui. Le problème, c'est qu'au départ, c'est qu'il y a toujours la livraison du vaccin qui supposément devrait bien repartir d'ici quelques semaines, mais c'est qu'il y a un troisième vaccin qui apparaît. Et là, le danger, c'est ceci. Est-ce que nous, on veut avoir le troisième vaccin qui, selon les données qu'on se fait dire, n'aurait pas la même capacité d'efficacité que les deux premiers, Pfizer et Moderna? Donc, la question, c'est que qui devrait recevoir le troisième vaccin qui, on nous dit que c'est une efficacité dans les 62-65. Écoutez ça, encore une fois, c'est toujours aléatoire.
C'est ça, puis il y a de nouvelles études qui disent que finalement, on a regardé ça dans d'autres pays, puis là, ça vient tout juste d'être publié. Ce serait 76, pas loin de 80 %. Fait que de jour en jour, ça évolue, ça fluctue. Ça serait pas bon pour les 65+. Finalement, ça serait pas pire pour les 65+. C'est difficile de suivre toutes les études qui sont publiées là-dessus, prof.
Mais c'est ça qui est le problème, voyez-vous. Puis c'est que oui, dans certaines études, on nous dit que ça a dépassé le 70-76%, mais c'est qu'il faut regarder le contexte, l'environnement. C'est que les études sont ciblées pour certaines régions. Mmh. Mais quand vous regardez, par exemple, le Canada, il y a une logique de la démographie canadienne qui n'est pas la même que dans d'autres pays. Puis il faut faire attention de ne pas prendre ce qui se fait à l'extérieur pour dire, ah, parce que ça fonctionne, par exemple, dans telle région aux États-Unis, mmh. c'est correct, on peut tout de suite le transposer au Canada. Il y a plein d'autres facteurs qui rentrent en ligne de compte, puis ça va prendre du temps. Et c'est là le problème, où est-ce que les citoyens, au départ, un, savent plus où se garocher sur l'information. Soyons honnêtes, là, ils savent plus quoi, parce que ça change tellement régulièrement que les gens sont toujours en train d'avoir de nouvelles discussions sur ce qu'ils ont appris tout récemment. La deuxième des choses, quand on est dans une gestion de crise, il faut avoir une constance. Parce que, au départ, les gens sont tous changés dans leur routine. Les gens doivent s'adapter, s'accommoder. Puis, le problème, c'est que quand on fait trop de changements, les gens sont plus capables de savoir qu'est-ce qu'ils devraient faire, qu'est-ce qu'ils devraient pas faire. Donc, les gens vont retourner à leur propre pratique, leur propre routine, puis vont trouver eux-mêmes leurs solutions, plutôt que de suivre ce que l'État propose comme démarche. Puis c'est ça qui est le problème, c'est qu'il y a tellement eu de hauts et de bas, on a tellement eu différents messages, que les gens, un, n'écoutent plus ou ne savent plus qu'à l'écouter, puis deux, ils vont agir selon ce qu'eux autres pensent être correct. Et c'est là le problème où est-ce que l'État perd le contrôle, son pouvoir d'influence envers les citoyens.
C'est incroyable. Il y a des gens qui vont arriver pour se faire vacciner, prof, puis qui vont dire, ben moi, je ne le veux pas AstraZeneca, il est moins efficace. C'est sûr qu'il y a du monde qui vont dire ça.
Mais c'est, puis ils ont entièrement raison, parce qu'on n'a pas démontré la vraie réalité de ce vaccin-là en termes d'efficacité au Canada. Puis le problème, c'est que les gens se disent, oui, mais moi, là, je veux avoir le vrai vaccin. C'est-à-dire le premier ou le deuxième, là, qu'on parle. Okay? Pfizer, Moderna. Donc, eux autres, ils disent, je veux celui-là parce que je veux pas avoir à jouer avec ma vie puis prendre un risque. Et c'est là le danger où est-ce que on doit alors décider quel groupe d'âge va recevoir ce troisième vaccin-là, et c'est pour ça qu'on décide de dire, oui, c'est vrai que les gens qui sont plus jeunes ont plus de force, plus de résistance, puis oui, ils vont être capables de mieux passer au travers de la crise, et on est capable de leur donner à eux autres le vaccin. Problème, c'est que vous vous dites, oui, mais moi, là, j'aimerais savoir ce que l'autre a de l'autre côté de la rue, qui est celui qui est plus efficace à plus de 90-92%. Pourquoi est-ce que moi, je suis non pas privilégié comme les autres? Pourquoi est-ce que moi, il faut que je reçoive ce qui est moins bon? Sur quelle base vous pouvez me choisir, moi, pour dire que c'est moins bon que l'autre? Parce que je suis plus jeune, puis je suis plus apte à faire la capacité de me battre, mais j'ai pas le goût d'être malade d'une façon donnée parce que j'ai pas été capable de recevoir la même qualité que l'autre du vaccin.
Oui, oui. D'ailleurs, on le voit bien dans les provinces, là, il y a des stratégies qui sont différentes d'une province à l'autre. Le Nouveau-Brunswick va vacciner avec ce nouveau vaccin, probablement, les jeunes de 16 à 24 ans, c'est une stratégie qu'ils veulent mettre de l'avant. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Pensez-vous que c'est une bonne idée?
Bien, c'est parce que chaque province essaie de toujours trouver une solution à sa crise ou aux éclosions futures. Dans la philosophie du Nouveau-Brunswick, ils se disent, écoutez, c'est le groupe d'âge qui a souvent, plus souvent qu'autrement, la capacité de contracter le virus. Ouais. Donc, parce que c'est un groupe d'âge tellement important puis qu'ils vont toujours avoir des activités socio-culturelles ou scolaires qui vont amener à avoir le virus, on va choisir cela pour être capable de limiter les éclosions futures. Le Québec, lui, a pris une approche très différente. Puis c'est important de comprendre que l'an passé, c'est une première fois pendant des années où est-ce que l'espérance de vie des Québécois a baissé à cause du taux de mortalité au Québec. Mmh. On réalise pas ça, là. Il y a eu une croissance élevée de gens qui sont décédés au Québec, ce qui a amené une baisse. Donc, c'est pour ça que la stratégie québécoise, c'est de dire, on va travailler ce groupe d'âge-là qui sont les 80 et plus au départ, parce que c'est là où c'est qu'il y a eu le plus grand nombre de décès. L'Ontario va regarder les personnes aînées, mais a choisi, par exemple, pour des quartiers comme on va prendre comme Ottawa, les quartiers, par exemple, où est-ce qu'il y a des groupes qui sont souvent plus enclins à avoir d'éclosion. Donc, par exemple, on a 7 quartiers à Ottawa qui sont principalement des groupes où est-ce qu'on a des nouveaux arrivants ou des gens qui sont racialisés qui vont recevoir le vaccin en priorité à cause des possibilités rattachées à plusieurs facteurs. Donc, ce qui fait en sorte que la province, elle regarde en Ontario qu'est-ce qui s'en vient, tandis que le Québec essaie de prévenir plus de décès. Puis l'Ontario, il se dit, ben nous, on va aller travailler ce crayon-là. Pourquoi? Parce que ça va nous permettre d'éviter plus de gens dans les hôpitaux. Tandis qu'au Québec, on n'a plus de place pour les gens de 80 et plus pour les traiter dans les centres de santé.
Bon, ben comme à l'université, prof, la cloche vient de sonner, on l'entend. Je vous laisse aller. Merci beaucoup. Très bon commentaire encore une fois ce matin.
Toujours un plaisir.
Merci beaucoup. Le prof bye bye. Gilles Levasseur, avocat et professeur de gestion de droit à l'Université d'Ottawa. Je veux revenir sur deux choses hier qu'on a entendues sur nos ondes. Entre autres, quand on parle de la COVID, il y a le psychologue et professeur associé à la Faculté des sciences de l'éducation à l'Université de Laval, l'Université Laval, Égide Royer, une sommité en la matière, je vous dirais, qui a dit hier à Bernard Drainville que les conséquences, on se questionne beaucoup sur les conséquences à long terme et l'absence des étudiants en salle de classe. Écoutez ça.
30% des jeunes qui, vraiment, il y a un décalage là, qui s'installe entre les élèves les plus forts et les élèves qui ont plus de difficultés. Donc, déjà des élèves qui étaient en difficulté d'apprentissage avant la pandémie et ajouter la situation de pandémie, situation d'enseignement à distance pendant quelques mois et l'ensemble des perturbations qu'on a connues. Bon an, mal an, on devrait se préoccuper d'un 30% de jeunes et particulièrement de, je pense entre autres à nos lecteurs débutants là, ou à ceux qui ont des retards en littératie ou en lecture, puis à ceux qui sont en difficulté au début du secondaire, si on avait ciblé déjà quelques jeunes. Là. Regardez brièvement, là, uniquement durant l'été, ce qu'on appelle la glissade de l'été, là, mes jeunes de milieux défavorisés ou en difficulté, ils prennent un retard d'équivalent d'un mois et demi à deux mois là, sur les autres jeunes, uniquement à cause de l'été. Mais alors, rajouter le printemps, mettre une glissade du printemps par-dessus, et c'est assez évident qu'il y a un certain nombre de jeunes qui décalent.
Alors, pour ça que c'est important de vacciner pour qu'on en finisse le plus rapidement avec la pandémie, pour que les jeunes retrouvent une vie normale dans les écoles. L'autre élément, c'est tous ceux qui sont anti-vaccins, anti-ci, anti-ça, qui propagent des mythes. Il y a une nouvelle, une étude britannique qui conclut que c'est à l'adolescence que les complotistes se développent. Christian Page en a parlé hier, écoutez ça.
On connaissait mal à quel moment les théories du complot vont trouver une adhésion auprès du public et on se disait bien, ça doit être quelque part dans l'enfance. Est-ce que c'est l'environnement de l'enfance, l'environnement familial qui fait que des jeunes vont adhérer aux théories du complot? Qu'un groupe de chercheurs de plusieurs universités en Grande-Bretagne ont établi une espèce de formulaire et ils ont posé des questions à un millier d'étudiants. Et ce qu'on découvre dans cette étude, c'est qu'en fait, les théories du complot vont commencer à se multiplier chez les jeunes à partir de l'âge de 14 ans. Et les chercheurs, par exemple, les sociologues expliquent ça en se disant, ben, c'est vrai que les jeunes, à partir de 14 ans, une espèce de mouvement contestataire, hein, les adolescents contestent. Ils contestent tout. Et comme ils contestent, ils vont contester tout ce qu'on leur donne, tous les paradigmes, tout ce que l'on présente comme étant des dogmes de la société, ils vont avoir tendance à s'opposer à ça. Et bien sûr, ils deviennent particulièrement propice à adhérer aux théories du complot. Et ce que les chercheurs ont remarqué, c'est que c'est encore plus vrai chez les jeunes qui ont de la difficulté à exprimer leurs sentiments. Donc, des jeunes qui sont plutôt introvertis auront tendance à se rallier vers les théories du complot.
Ah oui? Quel intéressant point de vue. Vous reconnaissez peut-être des gens dans votre entourage, des jeunes dans votre entourage, introvertis un peu, contestataires souvent de l'autorité, puis là, ben ils ont de la viande, là, même si c'est pas fondé, même si c'est de l'information non vérifiée, eux autres, ils partent avec ça, puis ils font un bout de chemin avec ça. Et bon sang que ça fait du bon sang. Comprenez-vous?